Ok, gloire à Dieu. Nous allons relire les textes de base que nous avons lus la semaine dernière. Donc je rappelle que nous avons commencé l'étude sur le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la nature de Dieu. Donc nous lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. On avait pris ce texte en introduction pour expliquer une réalité que nous vivons, qui peut nous arriver de vivre quelquefois sans se rendre compte véritablement de notre état, une réalité que nous pouvons observer dans beaucoup d'églises locales et même dans le monde chrétien. L'apôtre Paul, dans tout ce chapitre-là, va parler de l'amour. Et il explique dans les passages que nous venons de lire qu'il y a beaucoup d'actes qui semblent être des actes d'amour que l'homme peut faire. Il dit qu'on peut même jusqu'à livrer sa propre vie. Il dit, mais si on fait toutes ces choses-là sans avoir l'amour, finalement ce sont des choses qui ne servent à rien. Ou il peut nous arriver de faire ces choses-là sans pour autant être animé du véritable amour selon Dieu. Nous voyons aujourd'hui des personnes qui peuvent donner de l'argent aux pauvres. Mais en même temps qu'ils donnent de l'argent aux pauvres, ils sont francs-maçons. En même temps qu'ils donnent de l'argent aux pauvres, ils sont peut-être homosexuels. En même temps qu'ils donnent de l'argent aux pauvres, ils sont dans une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc, pourtant, ils posent des actes qui, avec un regard humain de l'extérieur, on se dit, mais c'est quand même des actes d'amour. Et l'apôtre Paul nous dit, oui, on peut faire toutes ces choses-là sans avoir l'amour. Donc devant le Seigneur, ça ne représente rien du tout. Alors le but de l'enseignement, c'est que nous puissions saisir que le plus important, c'est de manifester la nature de Dieu. On peut aujourd'hui faire de bonnes choses, mais sans pour autant avoir la nature de Christ. Comme j'ai donné l'exemple dans le monde, on voit beaucoup de païens faire de bonnes choses, mais ce n'est pas parce qu'ils font de bonnes choses physiquement, visiblement, que ça justifie le fait qu'ils aient l'amour selon le Seigneur. Loin de là. Et on peut rapidement tomber dans le piège, justement, de faire beaucoup de choses apparentes pour le Seigneur sans pour autant être dans les dispositions de cœur attendues par Dieu. Quand le Seigneur parle, on avait donné cet exemple-là au peuple d'Israël pour dire que vous me trompez. Le peuple dit, mais on te trompe dans quoi? Il dit, mais vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Donc, il donnait visiblement, mais en réalité, la disposition de cœur n'y était pas. Parce qu'ils ne donnaient pas selon ce que le Seigneur attendait d'eux. Mais apparemment, ils posaient des actes qui montraient clairement que ces gens-là s'engagent quand même pour le Seigneur. Comme ça peut se passer aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent venir régulièrement participer aux réunions, régulièrement participer au culte, donner de leur temps quelquefois pour faire certaines choses. Mais le Seigneur voit clairement que dans le cœur ou dans ce qui est manifesté, ce n'est pas vraiment l'identité de Christ. Alors pour nous, l'essentiel, c'est de revenir à l'identité de Christ, de chercher vraiment à ce que la nature de Dieu soit manifestée. Car celui qui manifeste la nature de Dieu, les œuvres en découleront naturellement. Celui qui vit comme Jésus, dont la nature qu'il témoigne, montre réellement qu'il a donné sa vie au Seigneur, les œuvres suivront d'elles-mêmes. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Il parle de la foi basée, fondée sur les Écritures, celui qui a donné sa vie au Seigneur. Logiquement, normalement, les œuvres découleront tout simplement de cette foi. Comme quand on ouvre le robinet, il y a de l'eau qui sort, c'est aussi normal pour nous. La Bible veut nous faire comprendre que Il doit en être ainsi pour celui qui a accepté le Seigneur. Les œuvres qui découlent de cette nature de Dieu doivent aussi se manifester naturellement et justifier quelque part que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Nous prenons Galates chapitre 5. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc toujours dans la même logique, je commence par le verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, et par conséquent nous avons reçu en nous l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, eh bien nous devons aussi laisser cet Esprit se manifester. C'est pourquoi dans le verset du dessus, il est écrit « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions ». Donc ça veut dire qu'il y a une suite logique, ou bien il y a une logique tout simplement dans ce fonctionnement-là, c'est-à-dire que si notre chair est crucifiée, ce sont les œuvres de l'Esprit qui vont se manifester naturellement. Donc, la nature de Dieu ne peut pas être manifestée tant que notre chair n'est pas crucifiée, tant que notre chair n'est pas morte. Donc, le fruit de l'Esprit que nous avons reçu en nous ne peut pas se manifester si nous n'acceptons pas la mort de la chair. Si la chair respire encore, si la chair vit encore, nous allons être constamment en contradiction et en opposition avec la vie de l'Esprit, avec la nature de Dieu en nous qui ne demande qu'à se manifester. C'est à ces réactions-là que nous pouvons voir tout simplement, nous savoir tout simplement où est-ce que nous en sommes avec le Seigneur. Lorsqu'on réagit de façon charnelle, ça veut tout simplement dire qu'à ce moment-là, la chair a pris le dessus sur l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas nous emmener à avoir une attitude ou des comportements qui vont à l'encontre de l'Évangile. Si la chair se manifeste, c'est tout simplement qu'elle a pris le dessus sur la vie en esprit. Donc l'Esprit de Dieu que nous avons reçu et qui est appelé à faire les œuvres du Seigneur, à manifester la nature de Jésus-Christ, ne peut pas se manifester librement si nous n'acceptons pas la mort spirituelle, la mort par rapport au vieil homme, par rapport à l'ancienne vie, afin que la vie nouvelle, celle que nous avons reçue dans le Seigneur, se manifeste. Nous avons parlé la semaine dernière de l'amour et aujourd'hui donc nous allons parler de la joie et de la paix qui sont des vertus aussi qu'il y a dans la nature même du Seigneur. Alors, la définition que j'ai retenue en ce qui concerne la joie, ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur ou de vif plaisir, état de satisfaction qui se manifeste par de la gaieté, de la bonne humeur. Donc la joie est une des vertus qu'il y a dans la nature de Dieu, que lorsqu'elle se manifeste, ça se voit aussi physiquement. On peut le voir, on peut le lire sur le visage d'une personne lorsque les choses vont bien ou lorsque les choses vont mal. La nature de Dieu, lorsqu'elle s'exprime, eh bien, elle se verra aussi physiquement. Et c'est important parce que c'est ce qui permet tout simplement à ceux qui observent le chrétien d'avoir, je dirais, un repère, d'avoir des caractéristiques claires de ce que doit être la nature d'un enfant de Dieu. Donc on ne peut pas être dans l'inertie, c'est-à-dire sans rien manifester et vouloir enseigner les gens du dehors ou montrer quelle est la nature de Dieu ou la nature de Christ. Si réellement nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, cet Esprit-là, la façon dont il se manifeste en nous, va laisser transparaître quelque chose. Et la joie est un élément important qu'on doit retrouver chez l'enfant de Dieu. Et pour beaucoup de raisons que nous allons essayer donc de détailler, pour beaucoup de raisons, la joie est une des vertus qui est aussi importante, mais la réalité aussi, C'est vrai que nous pouvons observer aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens sont fatigués. Beaucoup de chrétiens sont découragés. La joie que nous avons, elle est bien souvent comme ponctuelle. C'est-à-dire qu'on voit un peu la discerner au moment où on va chanter, au moment où on va louer le Seigneur. Mais au moment où les choses vont moins bien, humainement parlant, alors on sent que tout change. On passe d'un état à un autre, on passe d'une nature à une autre. On passe des œuvres du Saint-Esprit rapidement aux œuvres de la chair. Lorsque l'inquiétude reprend le dessus et vient étouffer cette joie. Nous prenons Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5, on va prendre deux passages pour justifier que la joie dont il est question, lorsque nous vivons selon le Seigneur, nous sommes des hommes spirituels. Or, l'homme spirituel ne vit pas en fonction de la terre, mais il vit en fonction des Écritures et en fonction des réalités célestes. C'est pourquoi on l'appelle spirituel. Ce n'est pas l'homme charnel, ce n'est pas un homme terrestre, c'est un homme spirituel. Donc sa vie a un rapport, a un lien automatiquement avec tout ce qui est lié à l'esprit, tout ce qui est lié au surnaturel. Dans Ecclésiaste chapitre 5, nous lisons à partir du verset 18. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Il y a des hommes qui sont bénis. Et comme ça a été le cas pour Job, qui était aussi un homme béni, le diable va se présenter devant le Seigneur et va dire, en réalité, Job est tel qu'il est vis-à-vis de toi parce que tu l'as béni de beaucoup de biens. Donc, il est en train de dire que si Job craint le Seigneur, si Job a cette vie sur la terre telle que le Seigneur l'a décrit, c'est uniquement parce que Dieu l'a béni de beaucoup de biens et ce sont les biens qui font de Job ce qu'il est aujourd'hui. Cette réalité que le diable soulève pouvait aussi être vraie puisqu'on sait que l'homme, lorsqu'il est béni matériellement, il a tendance à manifester une joie particulière. Ça nous est déjà arrivé autrefois, peut-être il n'y a pas longtemps, même en devenant chrétien, de recevoir quelque chose d'inattendu ou de travailler et d'accomplir un projet et de laisser transparaître notre joie. Et dès qu'on touche à quelque chose, on voit aussi sur le visage qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc naturellement, l'homme, par ce qu'il reçoit, par ce qu'il produit, peut tirer de tout cela une satisfaction, une joie. Donc lorsque le diable vient accuser Job pour dire que Job aime le Seigneur uniquement parce qu'il est béni, le Seigneur accepte que Job soit éprouvé. Comme le Seigneur peut accepter que nous aussi nous soyons éprouvés. Maintenant, dans ce passage-là que nous lisons, on dit que lorsque un homme est béni, on ne dit pas qu'il soit chrétien ou païen. On dit qu'il est béni parce que, tout simplement, Dieu le veut. Il est béni parce que Dieu le veut. Il dit que s'il en a rendu maître d'en profiter, c'est un don de Dieu. Donc, dans sa souveraineté, Dieu bénit les hommes comme il le désire. Maintenant, pour celui qui a rencontré le Seigneur, celui véritablement qui a abandonné sa vie à Jésus, on nous dit, car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Donc ce verset nous dit que l'homme à qui Dieu a fait le don de vivre et de profiter de toutes ses richesses, lorsque cette bénédiction vient du Seigneur à cause peut-être de la relation que nous pouvons avoir avec lui, il dit qu'un tel homme n'est pas joyeux à cause de ses bénédictions. Parce que le verset qui suit nous dit que c'est Dieu qui fait sa joie, qui répand la joie dans son cœur. Dans un tel homme qui reçoit des richesses, même si tu lui retires, il aura la même attitude que Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Non, il montre par là que sa joie ne dépend pas du matériel. Sa joie ne dépend pas de la terre. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on parle de la nature de Dieu, cette nature de Dieu n'est pas appelée à se manifester en fonction des événements de la terre. qu'il y ait tremblement de terre ou pas, qu'il y ait le déluge ou pas, notre état, l'identité que nous avons en Jésus-Christ ne doit pas changer en fonction des événements extérieurs. Donc aujourd'hui, un tel homme, tel que c'est écrit là, même si le Seigneur lui prenait tous ses biens, la Bible nous dit que sa joie est répandue dans le cœur par le Seigneur. Donc ce n'est pas tous ces biens-là qui font sa joie. La joie dont il est question, selon le Seigneur, c'est une joie qui n'est pas liée à la terre. Donc lorsqu'on manifeste la nature de Dieu, on ne la manifeste pas en fonction de ce qui va se passer sur la terre, en fonction des événements. Parce que c'est quelque chose qui fait partie de nous. C'est comme si on disait que lorsque un homme se rend en Afrique, il devient noir, et quand il vient en Europe, il devient blanc. Ah mais non. Si tu es noir, tu es noir, quel que soit le pays dans lequel tu vas aller, parce que ça fait partie de toi. Et la même chose que lorsque nous recevons la nature de Dieu, quel que soit le temps et les événements, ça reste la nature de Dieu. Donc la joie qui est censée être manifestée parce que nous avons le Saint-Esprit, elle ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Elle ne doit pas dépendre de ce que Dieu va nous donner ou bien de ce que Dieu va reprendre. C'est de cette joie qu'il s'agit et que nous sommes appelés à manifester parce qu'elle est au-dedans de nous. Les choses de la terre vont satisfaire la chair. Et comme nous l'avons dit au début, tant que la chair n'est pas crucifiée, eh bien elle ne laissera pas la place à l'Esprit de Dieu, à la nature de Dieu, d'être manifestée. Donc nous devons comprendre que la joie dont il est question, c'est une joie qui ne dépend pas de la terre. Quand nous prenons ceci, quand nous donnons cela, et que Dieu le reprenne derrière, la joie ne doit pas dépendre de ça. Parce que c'est ce que nous sommes. Au-dedans de nous, nous avons reçu cette nature qui ne dépend pas des événements du dehors, qui ne dépend pas de ce que Dieu permettra dans notre vie, ou bien de ce qu'il ne permettra pas, ne dépendra pas du fait que demain mon enfant est malade, ou bien qu'il soit en bonne santé, que je sois au chômage, ou bien que je sois au travail, qu'on me bénisse de tels biens, ou bien qu'on me le reprenne. La joie ne doit pas dépendre de ça. Nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est-à-dire des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, qui sont habités par la nature de Dieu, l'Esprit de Dieu en nous, qui laisse librement le Saint-Esprit se manifester. Et cette joie-là ne doit pas dépendre de la terre. Si notre joie dépend de la terre, c'est-à-dire que le diable, en nous attaquant, en nous piquant, si cette joie s'éteint facilement, ça veut simplement dire que la nature de Dieu en nous est étouffée. Parce qu'elle est en nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effort à produire en réalité pour que cette joie vive. On n'a pas à se forcer d'être joyeux. Parce que c'est en nous. Je reprends encore l'exemple le plus probant. Je suis noir. Donc, ce n'est pas les événements qui vont se passer dans le monde qui vont me faire changer de couleur de peau. Je suis tel que je suis. Ça fait partie de moi, de mon identité. Et c'est attaché à moi. Or, si nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc quand on dit qu'on est scellé, quelque chose qui est scellé, c'est quelque chose qui est fermé, qu'on ne peut plus retirer. Donc forcément, si cette nature de Dieu habite en nous, eh bien, les événements extérieurs ne peuvent pas décider de sa manifestation ou bien du fait que ça ne se manifeste pas. Oui ?
Oui, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Hein. Mais maintenant, la joie, comment elle se manifeste? Parce que je veux dire, on n'a pas toujours le sourire jusqu'aux oreilles ou quoi que ce soit. Et dans la définition, tu dis quand même que c'est un état de satisfaction qui se manifeste physiquement. Donc maintenant, comment aussi tu manifestes la joie si tu n'es pas forcément en train de rigoler ou de sourire ou,
Oui, forcément que la joie, au contraire de la joie, c'est quoi? Si tu ne manifestes pas la joie, c'est que tu manifesteras peut-être la tristesse. Tu manifesteras peut-être la peur. Sans qu'on le voie, une personne va venir te parler, tu vas répondre d'une manière sèche. Ça, c'est des preuves que la joie n'est pas. Parce que dans la définition, il est écrit que la joie laisse transparaître une bonne humeur. La bonne humeur, ce n'est pas forcément que tu souris tout le temps bêtement. Non, la bonne humeur, c'est que tu es dans des bonnes dispositions. Et quand une personne te parle et que tu réponds de façon froide, ça montre clairement que la joie n'est pas. Parce que la joie est liée à la bonne humeur. Donc on doit le manifester par une bonne humeur qui va permettre aussi de mettre les gens autour de nous à l'aise. Voilà. Là, il n'y a plus la question de se dire, oui, mais c'est mon caractère, c'est le matin, je suis comme ça. Mais quelle est la différence entre le matin, le midi ou le soir? Quand on est enfant de Dieu, ce n'est pas que l'Esprit décide de se manifester soit le matin ou bien à midi ou bien le soir. Non, on est enfant de Dieu même lorsqu'on dort. Donc le matin, quand on se réveille, on est aussi enfant de Dieu. Et si cette joie se manifeste, la notion d'excuser la mauvaise humeur en disant que c'est le matin, ça ne tient pas. Ça ne peut pas tenir. Donc celui qui est joyeux, eh bien, il va être de bonne humeur. Donc la joie, ce n'est pas de rigoler tout le temps, de sourire pour rien. Non, ce n'est pas ça. C'est un état qui principalement vient du cœur. C'est un état de lié au cœur.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la personnalité des personnes qui rentrent en compte, en fait ? Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a des personnes à qui on va dire qu'ils ont toujours le sourire, mais c'est... Enfin, et d'autres qui vont dire qu'ils font toujours la tête, mais en fait, c'est la personnalité de la personne. Je ne sais pas si tu comprends ou pas. Il y a des personnes, tu vas les voir comme ça, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'ils ont ? Ils tirent la trompe. Enfin, ils tirent, je ne sais pas comment on peut dire. Il est fâché, alors que non, c'est sa personnalité.
Oui, ça peut arriver.
Est-ce qu'en tant que chrétien, il faut changer cette personnalité, dire, bon, bah, Seigneur, arrange mon visage, parce que les gens, ils ont tout le temps l'impression que je suis...
Moi, je pense qu'en tant que chrétien, on doit aussi tenir compte de ce qui peut mettre les autres mal à l'aise. On doit en tenir compte, même si ce sont des choses liées, c'est vrai, à notre caractère. On doit en tenir compte en priant le Seigneur, mais en même temps, les personnes qui sont en face doivent aussi, je dirais, par amour, ne pas aussi chercher à imposer que la personne soit comme toi tu veux qu'elle soit. Parce que toi, ça peut te déranger, une personne qui est peut-être calme, qui n'est pas bavarde, comme tu viens d'expliquer, mais d'autres personnes, moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'il y ait un équilibre et qu'on ne doit pas chercher à ce que les gens soient forcément comme nous ou que comme nous, on voudrait qu'ils soient. Voilà, mais de l'autre côté, la personne doit aussi faire l'effort, tant bien que mal, demander au Seigneur de façon à ce que, bon, il aide à améliorer ça, si c'est possible. Voilà, si c'est possible. Donc, notre joie ne doit pas dépendre des choses de la terre. Et ça, le Seigneur permettra forcément des événements, il permettra forcément certaines choses afin que cette joie, eh bien, se manifeste. La différence, le Seigneur dit qu'il fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Et l'une des différences qui est visible, c'est aussi par la manifestation de la nature de Dieu. Voilà, c'est aussi par la manifestation de la nature de Dieu. Mais comme je l'avais dit le premier jour, lorsqu'on parle dans Galates 5, 22, on avait expliqué que c'est un seul fruit. Donc on ne peut pas justifier que j'ai la nature de Dieu parce que j'ai la joie, mais qu'à côté, je suis, comment dire, dans le manque de foi, je suis dans le manque d'amour, et de dire que j'ai la nature de Dieu. Non, c'est un tout. Donc, on ne peut pas dissocier l'amour de la bonté, on ne peut pas dissocier l'amour de la foi, on ne peut pas dissocier l'amour de la paix ou bien de la joie. C'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble. Mais encore une fois, nous l'avons au-dedans de nous. Nous l'avons au-dedans de nous. Donc le vrai travail que nous avons à faire, en réalité, c'est de mourir par rapport à la chair pour laisser cette nature se manifester librement. Parce que l'Esprit de Dieu en nous ne peut pas faire autre chose que ce qui montre la nature du Seigneur.
Mais est-ce qu'il peut arriver qu'un chrétien manifeste un fruit et pas un autre fruit ? Par exemple, il va manifester la joie, avoir la capacité en tout temps d'être joyeux, mais avoir du mal à être bon.
Je viens de dire. Ce n'est pas un fruit et un autre fruit. Donc, on ne peut pas dire que la bonté, c'est un fruit, l'amour, c'est un fruit. La joie, c'est un fruit. Non, on dit le fruit. Quand on écrit le fruit, c'est au singulier. On parle d'un seul fruit. Dans ce fruit-là, il y a l'amour dedans, il y a la joie dedans. Donc, c'est un seul fruit. C'est la nature de Dieu. Le fruit de l'Esprit, c'est la nature de Dieu. Donc, c'est pas j'ai ça, mais ça, j'ai pas. J'ai ça, mais ça. Non, si on a reçu l'Esprit de Dieu en nous, dans cet esprit-là, qui est la nature de Dieu, il y a tout ça dedans. C'est un seul fruit. Le fruit là-bas, c'est écrit au singulier. Donc, tu peux avoir, peut-être pour imager, une orange avec tous les quartiers qui font l'orange. Donc, si tu enlèves un quartier, ben, l'orange n'est plus complète. Donc, ce n'est plus le fruit. Il manque un morceau. Voilà. Donc, pour que le fruit soit complet, il faut que tous les quartiers soient, qui forment ce fruit-là. Donc, toutes les vertus, que ce soit l'amour, la bonté, la joie, la bienveillance, la foi, tout ça fait partie d'un seul fruit qu'on appelle le fruit de l'esprit, donc la nature de Dieu. Non, on ne peut pas dissocier. Nous avons reçu l'esprit de Dieu et dans l'esprit de Dieu, toutes ces vertus-là sont en nous. Voilà, c'est à nous maintenant de vivre conformément à ce qui est écrit pour que la nature de Dieu devienne visible pour les autres. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, toujours pour justifier le fait que la joie dont il est question selon le Seigneur ne doit pas dépendre de la terre. Luc 10, nous lisons à partir du verset 17. Le Seigneur avait envoyé donc ses disciples en mission, et quand ils reviennent de la mission, donc ils font le rapport. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel, comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas. Donc, ne soyez pas dans la joie parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Encore une fois, un passage qui nous montre que notre satisfaction, nous ne devons pas la tirer des événements qui se passent sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les disciples reviennent et ils sont joyeux, ils sont dans la joie. Ils sont dans la joie parce que l'autorité que Dieu leur a donnée fonctionne. Donc, il y a l'effet de nouveauté qui est là, peut-être l'étonnement de voir comment la gloire de Dieu s'est manifestée. Et ils sont joyeux de ça. Donc, quelque part, ils ont eu peut-être une certaine fierté de voir que, tiens, ils ont une puissance qui permet même de chasser les démons et de les soumettre à leur autorité. Et ils sont revenus tout joyeux. Mais le Seigneur leur fait comprendre que non, votre joie ne doit pas venir de là. Votre joie ne doit pas venir de là. Le plus important, ce n'est pas ça. Votre joie ne doit pas dépendre des exploits que vous faites sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où tu prieras et que le démon refuse de partir, tu vas être triste. Dans le jour où tu vivras une situation qui semble être un échec, tu vas être triste. Mais le Seigneur dit non, votre joie doit venir du fait que votre nom est écrit dans le livre de vie. Donc les choses spirituelles sont de loin beaucoup plus importantes que les choses de la terre. Ça veut dire que notre joie ne vient pas de même ce que le Seigneur peut nous donner d'accomplir physiquement sur la terre, mais notre joie vient des réalités spirituelles que nous connaissons, des réalités célestes dans lesquelles nous sommes. Elles sont beaucoup plus importantes que tout ce que nous pouvons faire de façon physique sur la terre. Et c'est ce que les gens, malheureusement, recherchent. Ils veulent trouver leur joie dans ce que le Seigneur peut permettre d'extraordinaire dans leur vie, en fonction des sensations, en fonction des sensations qu'ils vont ressentir pendant le culte. Je me rappelle, un jour, je discutais avec un jeune, après un culte, et il était content dans la joie. Je lui dis, qu'est-ce que tu as retenu? C'était un séminaire, il me dit, ah, vraiment, tu as vu, quand il a prié, les gens sont tombés, les gens criaient. Ah, mais j'ai dit, le message, tu n'as pas retenu le message. Donc lui, sa joie et son bien-être, il l'a trouvé dans les manifestations, dans les cris, dans les prophéties. Donc à ce moment-là, la notion du salut, c'est-à-dire de recevoir la parole qui doit transformer sa vie, était passée au second plan. Ce qui faisait sa joie, c'était d'avoir été spectateur du théâtre, quand on venait de voir où les gens sont tombés, où les gens ont crié, où il y a eu des prophéties, des paroles de connaissance. Et c'est ça qui a fait la joie. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens tirent leur joie de ce genre d'événement. Et c'est pourquoi beaucoup font des voyages de gauche à droite. C'est comme si l'environnement dans lequel Dieu les a placés, quelque part, les attriste. Ils sentent qu'il manque toujours quelque chose pour qu'ils soient dans la joie. Donc, ils essayent de trouver cette joie-là en allant de gauche à droite pour expérimenter des choses nouvelles, pour voir des choses qu'ils n'ont pas vues dans leur assemblée, pour entendre des choses qu'ils n'ont pas entendues dans leur assemblée. Donc, ils cherchent à tout prix, à quelque part, créer leur propre joie. Donc, leur joie ne dépend pas de la réalité que le Seigneur vit en eux, mais dépend de tout ce qu'ils vont observer, de tout ce qu'ils vont découvrir, de tout ce qui vont les épater. C'est de là qu'ils vont tirer leur joie. Quelque part, c'est comme si, quand on veut voir de nos yeux, on cherche toujours, c'est comme si quelque part on tentait le Seigneur. C'est-à-dire, on a besoin de voir quelque chose pour vraiment croire que Dieu est là. On a besoin de voir quelque chose pour vraiment croire que Dieu est avec nous. Donc notre joie va dépendre des manifestations. Lorsque ça semble calme, eh bien finalement on s'adapte aussi, nos sentiments s'adaptent aussi en fonction des événements extérieurs. Donc là, bon, on sent que c'est un peu calme, donc on calme un peu la joie. Donc au-dedans de nous, il y a le sentiment qu'il manque quelque chose. Mais dès que les manifestations arrivent, là notre joie est là. Là on devient un peu à l'aise, on commence à sourire, on commence à parler avec les autres, parce que ce qui nous manquait quelque part nous a comblés. Et puis voilà, il y a des personnes que j'ai connues qui sont tombées dans l'alcool ou bien dans la drogue, qui ne trouvaient leur joie que lorsqu'ils avaient leur dose. Donc tant qu'il n'a pas reçu sa dose, il est calme, il ne supporte pas trop de parler. Quand tu lui parles, c'est comme si tout ce que tu lui dis l'énerve. Et à un moment donné, tu vois quand il a été, qu'il a pris sa drogue, tu le vois dans un coin en train de danser tout seul, donc tu sens que là, le manque qu'il avait, il vient de le combler. Mais c'est malheureux, parce que ça va être une recherche sans fin. Ça va être des désirs sans fin. Et ça fatigue la vie de courir de gauche à droite, de chercher par quel moyen avoir la joie. Mais quand ta joie ne dépend pas de toutes ces choses-là, parce qu'elle est en toi, parce que tu l'as reçue, mais là, tu es tranquille. Là, ton seul souci, c'est lié aux choses spirituelles. Et les choses de la terre, que tu les as ou que tu ne les as pas, eh bien, ça n'a pas d'influence. Les disciples se sont réjouis des manifestations. Le Seigneur a dit, non, vous vous trompez. Vous vous trompez. L'objet de votre joie ne doit pas être à cause de ça. Ce qui doit faire votre joie, c'est de savoir que vous êtes sauvés. C'est cette joie. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et c'est vrai que ça fait partie du cadeau du Seigneur, ça fait partie de la grâce que nous avons reçue de Dieu, ben des réalités célestes, et que forcément, en ayant cette pensée-là, eh ben notre joie ne peut que demeurer. Oui.
Je voudrais que tu précises quelque chose. On est des humains et on peut, dans notre quotidien, on peut être affecté par une situation. Avoir une réaction, une première réaction par rapport à la situation. Et il faut un temps plus ou moins long, je ne sais pas, peut-être une heure, une demi-journée, pour prendre le recul nécessaire et regarder la situation par rapport au Seigneur et relativiser les choses. Est-ce que c'est normal, quoi, d'avoir une réaction par rapport à une situation et après de rétablir mais d'avoir quand même dans la chair cette réaction?
Oui, on peut avoir une réaction, je dirais même de tristesse. On peut pleurer si on apprend une mauvaise nouvelle, le décès d'un proche. Le souci n'est pas là. Maintenant, la question du temps, le temps est relatif. Toi, tu peux te dire que c'est une heure, l'autre peut se dire qu'il me faut une journée entière pour récupérer. Le temps est relatif. Donc ça, nous, on ne peut pas fixer et décider à quel temps, à partir de combien de temps, on peut dire que non, la personne-là, elle exagère. On ne sait pas. Ça, c'est Dieu seul qui peut. Maintenant, le fait que l'événement nous surprenne, oui, c'est une réalité. Mais on ne doit pas rester justement dans cet état-là de façon indéfinie. Et même si on est dans cet état de tristesse au moment où on apprend la mauvaise nouvelle, Mais ça ne nous empêche pas de continuer à faire l'œuvre de Dieu. Voilà, on peut être triste, mais on peut, ça ne nous empêche pas de continuer à faire les choses que le Seigneur nous a demandé de faire. Voilà.
Oui, ce que tu veux dire par là, c'est que la situation, quand bien même elle peut être triste, elle ne doit pas nous paralyser et nous empêcher de continuer notre vie avec
exactement.
Le Seigneur. C'est simplement en fait une réaction qui est là de la chair et qui se manifeste le temps qu'on relativise par rapport à ce que le Seigneur nous a donné,
voilà,
sa vie.
Voilà.
Quoi.
Mais en ce qui concerne le temps, ça, ce n'est pas à nous de définir. Voilà, je ne peux pas dire que non, mais ça fait quand même une journée entière, il n'est toujours pas consolé, non. Voilà, donc au niveau du temps, c'est le Seigneur qui définit, qui sait dans le cœur si là la personne est entrée peut-être dans une forme de rébellion, quoi. Voilà, le refus d'accepter ce que le Seigneur a permis dans sa vie. Ça, c'est Dieu seul qui peut le savoir. Mais après, bon, humainement parlant, si bon, on voit quand les semaines passent et les mois passent, et puis que la personne est toujours dans une attitude où c'est comme si le deuil ne va jamais passer, bon, on peut aussi le ressentir, quoi. Mais bon, ça reste toujours, le Seigneur reste toujours maître de juger pour savoir si dans le cœur d'un tel il y a la rébellion qui finit par étouffer la vie du Seigneur, quoi. Voilà, mais oui.
Oui, bon, je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là et peut-être que c'est une vision assez utopique, mais je voulais savoir, est-ce que le Seigneur ne veut pas nous amener à... est-ce qu'il n'est pas possible de que chaque chrétien soit un peu comme Job qui dit, voilà, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que son nom soit béni. Est-ce que justement cet état de... enfin, le fait d'avoir le temps de relativiser les choses, etc., c'est pas... enfin, est-ce que c'est pas ce... pourquoi il faut combattre, justement ? Je ne sais pas si tu comprends. Et bien sûr, il y a la partie humaine, on est humain, tout ça, mais est-ce que Dieu ne veut pas... est-ce que c'est trop que demander ce miracle-là à Dieu, de dire, bon, ben voilà, que limite, quand il y a un deuil, que... bon, on ne va pas sauter Dieu non plus, mais que Dieu qui aime nos...
ah oui, mais on peut prier que le Seigneur nous aide à accepter sa volonté. À accepter sa volonté. Et on n'oublie pas que l'objectif du Seigneur, Romains 8, 28, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Le verset 29 nous dit que nous sommes prédestinés à être semblables à Jésus. Donc, les choses concourent pour notre bien, les épreuves que Dieu permet, il y a un objectif, c'est pour que nous soyons semblables au Fils de Dieu. Et c'est la même chose qui est dit dans Éphésiens, quand on parle des ministères qui ont été établis, pour nous amener à la stature parfaite de Christ. Donc, à travers tout ce que le Seigneur permet, il y a l'objectif de nous modeler vraiment à la stature parfaite de Christ. Donc forcément, dans ce que le Seigneur permet, compris, oui, que le Seigneur nous aide à accepter. Voilà, qu'il nous aide vraiment à l'accepter. C'est en acceptant ce que Dieu permet qu'il peut aussi œuvrer en nous pour opérer la transformation, pour nous amener à ressembler à Jésus. Oui.
Alors, je rebondis parce qu'en fait, donc les sentiments, ce qu'on peut éprouver, c'est du domaine de l'âme, ce sont des sentiments. Or, dans la parole, à un moment donné, dans le Nouveau Testament, alors je ne sais plus, l'apôtre Paul dit « dénué de sentiments ». Donc, le Seigneur nous a créés avec des sentiments. Et, comment exprimer ? C'est vrai que le sentiment, c'est le domaine de l'âme. Et nous, on doit vivre par l'esprit, donc ce n'est pas notre âme qui doit diriger notre vie. C'est un fait. Mais est-ce que pour autant, on doit être dénué de sentiments ? Je ne crois pas que le Seigneur soit en accord avec ça. Je crois que... est-ce qu'il ne veut pas plutôt que, même en ayant des sentiments, que toujours ce soit spirituellement qu'on juge et qu'on ait la maîtrise de soi, justement, par rapport à ça, et ne pas être privé de sentiments, parce que celui qui est privé de sentiments, je ne sais pas si c'est normal, quoi, voilà.
Ah non, on doit avoir des sentiments, là, il n'est pas question de dire qu'on doit devenir des pierres ou bien des rochers, non. Il y a toujours le sentiment qui est là. Pour avoir la compassion pour les pauvres, ben, il faut bien qu'on ait des sentiments. Maintenant, c'est vrai que la vie en esprit doit nous aider à gérer ces sentiments, pour ne pas que ces sentiments, même s'il s'agit de compassion, nous emmènent à faire des choses qui vont quelque part aussi prendre la place de Dieu dans la vie de quelqu'un. On peut rapidement devenir le Dieu de quelqu'un en étant son secours, en étant son soutien, et en faisant les choses de façon tellement charnelle, bien qu'animée de sentiments, finalement, où c'est nous qui prenons la place de Dieu dans la vie de cette personne. Donc la vie en esprit va nous aider à fixer des limites et à orienter, à assujettir ces sentiments-là pour que ça travaille dans le sens de Dieu. Voilà, pour que ça travaille dans le sens de Dieu. Donc non, on ne peut pas être dépourvu de sentiments ou devenir des gens avec un cœur de pierre, non.
C'est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Donc on a des sentiments.
Voilà, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Dans Philippiens 2, c'est un rapport surtout avec l'humilité qu'il a manifestée jusqu'à se laisser dépouiller à la mort de la croix. Donc forcément, quand on revient aussi, c'est vrai, à la vie de Jésus, ben, voilà, il a vu cette veuve qui allait enterrer son fils unique. La Bible dit qu'il fut ému de compassion. Voilà, quand il a vu la foule qui était là depuis plusieurs jours, qui le suivait sans avoir mangé, la Bible dit qu'il était ému de compassion. Voilà, donc il y avait des sentiments qui étaient là, qui nous permet aussi de nous supporter, d'apprendre aussi à vivre, je dirais, les uns avec les autres. Donc quand on voit que dans le monde, même des païens arrivent quelquefois à faire des associations, des organisations pour soutenir des régions là où il n'y a pas l'eau potable, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des gens qui ont l'amour de Dieu. Voilà, donc le Seigneur nous a créés, c'est vrai, avec certains sentiments. On n'est pas des animaux, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ces sentiments peuvent devenir un piège si ils ne sont pas assujettis à la loi de l'esprit. Donc on doit aussi veiller là-dessus. Voilà, donc ne marchons pas, la joie dont il est question là, ne doit pas dépendre, bien aimé, en fonction de comment les choses se sont passées. Voilà. Certains disent, le culte était froid aujourd'hui. C'était froid comment? À quel moment tu décides que c'est chaud, que c'est froid? En fonction de quoi? Donc notre joie ne doit pas dépendre de ça. La réalité céleste, la réalité du ciel, doit prendre le dessus que sur les manifestations de ce que nos yeux voudraient voir, de ce que nos oreilles voudraient entendre, et tirer une satisfaction de ça, parce que tu serais reparti d'un lieu en ayant entendu ta prophétie, en ayant entendu quelque chose qui te plaît à l'oreille, et ta joie dépend de ça. Mais si la personne qui t'a prophétisé t'a menti, ça veut dire que ta joie va être de courte durée. Va être de courte durée. Or, la joie de courte durée, ce n'est pas celle que le Seigneur nous a donnée. Ce n'est pas celle que nous sommes appelés à vivre, à expérimenter. Voilà, la joie qui est au-dedans de nous, manifestée par le Saint-Esprit, c'est une joie qui est liée à la personnalité de Dieu. Or, Dieu est éternel. Donc cette joie-là, nous pouvons la conserver le temps de notre vie sur terre, jusqu'au retour du Seigneur. Nous pouvons l'expérimenter et nous allons voir que c'est un véritable soutien par rapport aux réalités que nous pouvons rencontrer sur la terre. Nous prenons l'épître de Jacques, chapitre 1er. L'épître de Jacques, chapitre 1er. Et ça, c'est un passage que la chair ne peut pas accepter, bien sûr. La chair ne peut pas recevoir. Jacques chapitre 1er, au verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Acceptez avec joie. La chair ne l'accepte pas. Nous étions autrefois de l'autre côté dans le monde et je ne sais pas si quelqu'un a le souvenir d'avoir connu un malheur, d'avoir été éprouvé et le même jour d'aller en boîte de nuit, danser, aller faire... Non, je crois que quand l'épreuve est là et qu'elle est difficile physiquement, c'est la tristesse, c'est les pleurs, c'est la colère, c'est des sentiments d'injustice. Tout ce que l'homme ne supporte pas, on le ressent à ce moment-là. Ça, c'est la vie selon la chair. Maintenant là, l'apôtre Jacques s'adresse à des hommes spirituels. Il parle à des gens qui ont reçu la vie de Dieu en eux et qui donc, par conséquence, peuvent chercher à pratiquer ce qu'il dit. Il ne donne pas des conseils en sachant qu'on ne va pas être capable de les mettre en pratique. Il donne des conseils qui sont logiques à la nouvelle nature que nous avons reçue. Et il dit que les épreuves, nous devons les recevoir avec joie. Il n'y a que celui qui est animé par la nature de Dieu qui peut recevoir avec joie les diverses épreuves. Et l'apôtre explique pourquoi. Il explique que les épreuves qui vont être permises dans notre vie ont un objectif. Ça veut dire que la joie peut rester, même lorsqu'on vit des événements difficiles, comme on l'a soulevé avec le point que la sœur Mireille avait soulevé, même si ce sont des événements difficiles, mais puisque nous ne vivons pas uniquement par rapport à ce que nos yeux nous montrent là, le chrétien, il vit aussi en fonction des promesses à venir. Ce qui conditionne notre vie, ce n'est pas simplement l'événement du moment. Comment se maintenir dans la joie, dans l'épreuve, pendant que c'est difficile? On se maintient parce qu'on sait qu'il y a un objectif à venir. Et les promesses du Seigneur nous orientent et nous montrent. Voilà ce que Dieu prépare. Donc c'est comme si on avait un temps d'avance sur l'épreuve. C'est comme si on avait déjà compris l'objectif à venir, c'est-à-dire ce que le Seigneur est en train de faire. Donc au moment où l'épreuve est là, ce sont les promesses à venir qui nous consolent le jour même. On sait qu'il y a un but derrière ça, même si ça fait mal. La douleur peut être là, mais elle n'étouffe pas notre joie, c'est-à-dire le fait que nous soyons de bonne humeur, le fait que nous soyons dans une vie qui est satisfaite dans le Seigneur, parce qu'on a compris que l'épreuve que Dieu permet là, il y a un objectif et un projet que le Seigneur est en train de préparer. Donc, ayant un regard sur les promesses du Seigneur, sur les prophéties à venir, eh bien, nous avons notre consolation aujourd'hui. C'est comme si, au moment où tu regardes sur ton compte, tu vois que tu as découvert 2000 euros. Mais en même temps que tu vois sur le compte 1000 euros, tu reçois un appel qu'on te dit demain, il y a 3000 euros qui arrivent. Donc, c'est-à-dire les 3000 euros ne sont pas encore là. Mais au moment où tu vois cette mauvaise nouvelle, tu regardes déjà à la bonne nouvelle qui arrive demain. Donc, l'effet que devait avoir la mauvaise nouvelle d'aujourd'hui, finalement, ne te détruit pas. N'enlève pas ta joie. Ça peut te piquer sur le moment, mais tu es déjà consolé parce que tu as vu les choses à venir. C'est pourquoi l'apôtre explique que quand l'épreuve vient, recevez-la avec joie. Il est en train de nous dire que, avec cette épreuve-là, le Seigneur est déjà en train de préparer la suite. Il veut nous amener à une autre dimension, il veut préparer autre chose. Et on revient encore à Romains 8, 28. « Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc, il est en train de nous dire que l'épreuve que le Seigneur est en train de permettre, celle que tu vis peut-être aujourd'hui, il y a un objectif derrière ça. Donc, le Seigneur, en fait, dans tout ce qu'il fait, il n'y a rien qui est au hasard. C'est-à-dire, le Seigneur, dans tout ce qu'il fait, tout est pesé, tout est mesuré. Celui qui travaille dans le concept d'un gâteau, il va te dire, des fois, tu mets, je ne sais pas, 1 gramme de sucre. Peut-être qu'un gramme pour toi, ça ne représente rien. Tu vas dire, mais 1 gramme, est-ce qu'on va vraiment sentir? Mais c'est ce qui fera la différence. Au moment où on mangera le gâteau, c'est ce qui fera la différence. On sentira qu'il manque quelque chose qui te paraissait sans importance au départ. Mais celui qui a conçu le gâteau, il a fait les choses avec précision parce que pour atteindre ce qu'il veut, il faut que les choses soient respectées. De la même manière que lorsque le Seigneur prépare le plan pour nous, le projet pour nous, il ne laisse rien au hasard. Même l'épreuve qui va durer peut-être 1 minute que Dieu permet, ça peut paraître insignifiant. Mais pour le Seigneur, c'est important. Il sait que cette épreuve-là est indispensable pour t'amener au niveau auquel il a prévu de t'amener. C'est pourquoi on ne doit rien négliger. On ne doit rien mépriser. Aujourd'hui, ça nous arrive quelquefois de prendre les choses avec sérieux lorsqu'on trouve que le problème est sérieux. Mais quand on trouve que c'est un problème qui n'est pas sérieux, indirectement, c'est comme si on sent qu'au-dedans de nous, humainement, on a la force pour résoudre ça. Donc, on n'a pas le réflexe tout de suite d'associer Dieu. On se dit, non, ça, je vais pouvoir gérer. Mais la réalité, c'est que dans tout ce que le Seigneur permet, même qu'il peut paraître petit, on doit toujours chercher à associer Dieu. Parce que lui, il permet ça pour un objectif. Le Seigneur ne laisse rien au hasard dans ce qu'il a planifié. Pour chacun d'entre nous, il a fait les choses avec précision. Et lorsqu'on a conscience de ça, eh bien, notre joie ne peut plus être enlevée. Notre joie ne peut plus être enlevée parce qu'on sait que non, Dieu ne se trompe pas. Il a permis ça, il a préparé ça, il y a un objectif qui est derrière. Donc celui qui est attaché à cette idée-là, personne ne peut lui enlever la joie. Il peut être piqué par l'événement, surpris, mais ça ne lui enlèvera pas la joie. Non, au moment où il voit la chose qui arrive, il bénit le Seigneur de ce qui va venir derrière. Plus l'épreuve est grande, plus le mal est grand, plus la consolation aussi sera grande. Mais déjà, nous avons toutes ces promesses-là à venir. Toutes ces promesses-là, ben, finalement, qui nous permettent de pouvoir demeurer dans la joie. Parce que les choses d'aujourd'hui, les choses liées à la terre, ne peuvent pas influencer ma joie, ne peuvent pas me retirer la joie, parce que j'ai compris ce que le Seigneur est en train de préparer. Ce qui veut dire tout simplement que, quelque part, lorsqu'on perd notre joie, c'est qu'on n'a pas tenu compte des promesses du Seigneur. C'est qu'on n'a pas cru aux promesses du Seigneur. Lorsque notre foi est étouffée, c'est qu'on a totalement oublié tout ce que Dieu nous a promis. On a oublié ce que Dieu est capable de faire. On a oublié tout ce que le Seigneur a fait autrefois depuis l'Ancien Testament. On a oublié les exploits que le Seigneur a fait avec ses disciples. Et c'est là que notre foi est étouffée. Mais lorsque on sait que ce Dieu-là, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse qui a ouvert la mer, le Dieu qui a donné la vue à Bartimée, lorsqu'on a la conscience et qu'on a cette assurance-là, qu'il n'a pas changé, qu'il est toujours le même, alors notre joie demeure. Parce que ce qu'il a fait autrefois, il peut encore le faire aujourd'hui. Donc si j'ai cette conviction-là, ben, la foi sera toujours là, la joie sera toujours là. La joie sera toujours là, personne ne peut nous enlever notre joie. Voilà, même si les épreuves arrivent, et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, soyez toujours joyeux, nous lisons 1 Thessaloniciens. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Quand on lit les épîtres aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul va parler aussi des choses à venir, de l'avènement du Seigneur. Il va parler aussi de la façon dont les choses vont se passer. Il va parler de toutes ces choses-là. Et c'est à la fin de l'épître qu'il va expliquer que soyez toujours joyeux. C'est-à-dire qu'il a donné les raisons pour lesquelles nous devons toujours être joyeux. Et nous, dans la Bible, nous avons plusieurs raisons d'être toujours joyeux. Comme je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas forcément ou obligatoirement joyeux en fonction de ce que le Seigneur a fait aujourd'hui, mais nous sommes joyeux parce que nous savons comment les choses vont se terminer. Donc, on sait comment les choses vont se terminer. Donc, puisqu'on sait qu'on a déjà gagné, on sait que Jésus-Christ a payé le prix. Il est mort sur la croix pour nous. Donc, qui c'est qui va nous condamner? Qui c'est qui va nous condamner? Jésus-Christ nous a déjà justifié. Donc, le poids du péché, la culpabilité du péché, avec lesquels beaucoup d'hommes marchent, il y a des hommes qui marchent vraiment avec l'amertume. Des erreurs qu'ils ont faites, quelquefois dans leur jeunesse, qu'ils ont regrettées parce qu'ils n'ont pas pu réparer. Et ils gardent des fois dans leur cœur des souvenirs passés douloureux parce qu'ils ont le sentiment d'avoir mal fait. Ils vivent avec cette culpabilité qui est lourde à porter. Mais nous, nous savons que le Seigneur nous a justifiés. Alors même les erreurs du passé, qu'on viendrait nous rappeler aujourd'hui pour dire « Oui, mais toi, autrefois, tu étais comme ça. Tu avais fait ceci, tu avais fait cela. » Ça ne m'enlève pas la joie parce que Christ a payé. Ça ne m'enlève pas la joie parce que Christ est mort. Donc ce dont tu viens m'accuser, Jésus-Christ a déjà accompli la peine de prison qui était pour moi. C'est fini. parce que je marche avec cette réalité-là. Donc devant toutes ces accusations, la réalité du sacrifice de Jésus-Christ, eh bien, fait que ma joie demeure. Ma joie demeure. On est dans des situations difficiles. Tu arranges la situation aujourd'hui, demain un autre problème survient. On est sur la terre. Les problèmes ne vont jamais manquer. Les catastrophes ne vont jamais manquer. Les épreuves ne vont jamais manquer. Il y a des gens qui ne supportent pas ça. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se suicident. Ils font le calcul. J'ai 30 ans, je souffre comme ça. Il me reste encore peut-être 40 ans, 50 ans encore à vivre. Est-ce que les 40 ans, les 50 ans à venir vont être aussi durs ? Ça ne va pas finir. Ils préfèrent en finir tout de suite. Dans la peur de souffrir pendant 30 ans, 40 ans à venir. Mais celui qui a la nature du Seigneur, qui a l'Esprit de Dieu en lui, il sait qu'un jour les souffrances cesseront. Il sait que ce n'est que pour un temps. Le temps que Dieu décidera, qu'on souffre sur la terre, il sait que ce n'est qu'un temps. Parce que les promesses du Seigneur nous disent qu'il essuiera toutes nos larmes. Donc on sait que ça finira. Dans le fait de savoir que notre Seigneur revient bientôt nous chercher, la consolation est déjà là. La consolation est déjà là. On voit quand on peut souffrir de l'absence d'une personne ou des fois un enfant pour le calmer. Tu dis, maman arrive, tes parents arrivent. Donc le fait de savoir que le temps est proche, ça devient plus facile à supporter le temps du moment, la douleur du moment. Parce qu'on sait que la consolation approche. Et la Bible nous dit que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Donc, pourquoi être toujours joyeux ? Parce que nous avons toutes les promesses qui nous aident à tenir sur la terre. Si nous mettons foi à toutes ces promesses-là, nous sommes dans la joie. Personne ne peut nous ravir cette joie-là parce que nous avons mis notre foi dans les promesses du Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre dit « Soyez toujours joyeux ». Ça veut dire quoi d'autre ? Mais ça veut dire aussi que finalement, il y a une solution à tous les problèmes. Donc un chrétien ne peut pas être dans une forme d'incertitude par rapport au lendemain. Un chrétien a toujours des solutions parce que la Bible répond à toutes les solutions. Oui.
Oui, alors là on parle des épreuves envoyées par le Seigneur, mais il y a aussi le diable aussi qui vient aussi... parce que des moments, quand on a des épreuves, on prie dans le nom de Jésus et la chose, la circonstance passe. Comment aborder cela aussi ? Parce que on dit que le Seigneur permet les épreuves, mais quand le diable qui arrive aussi avec son lot d'épreuves qu'il nous envoie.
Le plus difficile, je pense que c'est les épreuves que le Seigneur envoie. Ça vient de lui-même. Et quelque part, on ne peut pas lutter contre Dieu. Par contre, les épreuves qui viennent par les attaques du diable, mais on a toutes les armes. On a toutes les armes. Éphésiens 6 nous en parle. La foi, le bouclier de la foi. L'épée qui est la parole de Dieu. Donc, en ce qui concerne le diable, on a les arguments. Donc, c'est pour nous dire tout simplement que le diable n'est plus un problème pour un enfant de Dieu. Le vrai problème, c'est notre obéissance avec Dieu. Est-ce qu'on obéit ou est-ce qu'on désobéit ? Le diable n'a aucune puissance devant nous. Il dit qu'il nous a donné la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire, il ajoute. Donc le vrai problème, ce n'est pas le diable. Le vrai problème, c'est notre cœur, nous et le Seigneur. Donc lorsque le Seigneur envoie l'épreuve, l'apôtre nous dit, recevez ça avec joie. Même si le diable peut aussi être derrière et que Dieu laissant faire, ça devient comme une épreuve pour nous, mais on a les moyens pour combattre. Donc en réalité, le chrétien n'est pas démuni devant les épreuves. On n'est pas démuni devant les épreuves. On a reçu toute l'autorité du Seigneur pour faire face soit à l'épreuve du Seigneur, c'est-à-dire de lutter dans la foi, dans la persévérance, dans l'assurance en Dieu. Et si ce sont des épreuves à la base, qui étaient des attaques du diable, eh bien, on a les armes spirituelles pour lutter.
Alors, on doit se poser la question, quand l'épreuve arrive, pasteur, de dire, Seigneur, est-ce que c'est toi qui m'envoies cette épreuve ou c'est...
Moi, je pense qu'on n'a même pas à se poser la question de savoir si c'est le diable ou pas. L'épreuve est là, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, on va prier. On peut demander. Voilà, je ne peux pas dire que le Seigneur est contre le fait qu'on demande. Voilà, moi, je pense que, quelle que soit l'épreuve, dans tous les cas, on a les moyens. Voilà, donc, utilisons les moyens, parce que je ne sais pas, est-ce que ça va changer grand-chose à ma vie si je sais que ça vient de Dieu ou du diable? Je ne sais pas, est-ce que ça a une importance? Maintenant, Dieu peut nous révéler. Dieu peut nous révéler. Voilà. Après, de toutes les manières, les armes sont là. Voilà. Donc, on a les moyens. Voilà. Si tu te sens poussé à demander, Seigneur, montre-moi d'où vient l'épreuve. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est le diable? Bon, si tu te sens poussé, tu le fais. Voilà. Mais je ne sais pas, est-ce que ça aura vraiment une influence de savoir si c'est Dieu ou le diable? Qu'est-ce que ça va changer? Je ne sais pas. Voilà. Mais néanmoins, on a la prière, on a les armes spirituelles pour faire face à toutes les épreuves. Pour faire face à toutes les épreuves. Voilà. On se souvient dans Deutéronome 8, quand le Seigneur parle à son peuple et qui dit « Je t'ai éprouvé dans le désert ». Voilà. Mais il y avait un objectif, c'était pour voir si tu garderais ma parole ou pas. Voilà. Donc il y a des situations dans lesquelles le Seigneur peut nous permettre, dans tous les cas, même si c'est le diable aussi, c'est vrai. Même si c'est le diable, ça sera, le Seigneur permettra toujours pour voir notre réaction. Est-ce qu'on va rester attaché à lui ou pas? Parce que quand le Seigneur justement permet que Job soit attaqué par le diable, il y avait un objectif qui était là. Le diable lui voulait faire tomber Job, c'est-à-dire l'amener à renier le Seigneur. Et le Seigneur voulait tout simplement confirmer que celui-ci est vraiment à moi, quoi. Voilà. Et la Bible nous dit qu'en tout cela, Job ne pécha point. Voilà, il n'a pas péché contre Dieu, donc il est resté fidèle au Seigneur à travers la réponse qu'il a donnée à sa femme. Donc il est vraiment resté attaché à Dieu à travers ce qu'il a confessé en disant que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Donc à ce moment-là, Job n'avait aucune idée que derrière tout ça, il y avait le diable. Donc lui, dans la gestion de cette épreuve-là, il n'a regardé qu'au Seigneur. Voilà, le diable n'a même pas... On ne sent même pas qu'à un moment donné, il a pu évoquer le diable, que ce soit une attaque, non. Vraiment, dans toutes les réponses qu'il a portées, on voit clairement que ses regards n'étaient fixés que vers Dieu. Son souci était simplement lié au Seigneur, même pas au diable. Voilà, parce que le danger, certains n'acceptent plus quelque part les épreuves du Seigneur. C'est-à-dire tout ce qu'il vit de difficile, le diable ou les sorciers. Tout ce qu'il vit de difficile, un démon qui est caché quelque part. Donc là, c'est après, ça emmène dans une forme de paranoïa, qui peut nous emmener dans une forme de vie où tu commences même à vouloir délivrer des fleurs, un animal sort au nom de Jésus. Donc voilà, de voir des démons partout. Moi, je pense que c'est important de garder les yeux fixés sur le Seigneur. Maintenant, si derrière un événement, on discerne que ça peut être l'objet d'attaque, on chasse l'esprit s'il faut chasser, si on est inspiré à le faire. Mais le plus important, c'est de regarder au Seigneur. C'est de regarder au Seigneur. Et quand on a cette disposition-là, ben on est dans cette joie. Voilà, la joie, personne ne peut nous l'enlever. Donc l'événement d'aujourd'hui, la tristesse d'aujourd'hui, nous avons déjà la consolation qui se trouve dans les Écritures. Donc toutes les choses à venir que le Seigneur nous a promises, elles sont pour nous. Et elles sont pour nous aujourd'hui. Donc la parole de Dieu, on ne peut pas dire que les promesses étaient pour hier, pour les événements d'hier, non. La parole de Dieu est vivante. Et elle est toujours au présent pour nous. Donc, quelles que soient les promesses ou bien les événements qui se sont passés autrefois, doivent être des enseignements pour nous aujourd'hui. Et toutes les promesses des choses à venir doivent être pour nous des consolations pour les épreuves d'aujourd'hui. Je suis dans la joie parce que je vois dans l'avenir que Dieu a déjà résolu mon problème. Voilà, c'est ça qui fait la consolation, qui est notre consolation. Voilà, et c'est ça qui peut aussi faire paraître devant les gens qui ne saisissent pas ça. Ah, mais il est dans l'épreuve, mais il est tranquille. Voilà. Il ne laisse pas de tristesse. On peut croire que tu es quelqu'un sans cœur ou bien qui ne tient pas compte de la situation. Regarde l'état dans lequel sa famille est. Il ne s'inquiète pas. Non. Il est dans la joie parce que le Seigneur lui a déjà parlé à l'avance. Et comme il fait confiance au Seigneur, il sait que Dieu fera comme il a promis. Donc la consolation, je la vis aujourd'hui. On ne va pas attendre que le Seigneur nous bénisse pour dire, ça y est, je suis consolé. Mais ça, tout, même les païens. Même les païens, une fois que leur problème est résolu, ils retrouvent aussi la paix, ils retrouvent aussi la joie. Mais un enfant de Dieu, il a déjà la joie parce que le problème est déjà réglé. Même si apparemment, il ne le voit pas, c'est déjà réglé. Voilà, et il marche avec cette assurance-là. Et c'est cette assurance-là, dans ce que le Seigneur nous a promis, qui nous aide à nous maintenir dans la joie. Donc à chaque fois qu'il nous manque la joie, dans un événement particulier, c'est tout simplement qu'on a mis les promesses de Dieu à côté. Voilà, on a mis les promesses de Dieu à côté, on a mis la parole de Dieu à côté, on a oublié tout ce que le Seigneur a fait pour nous autrefois, on a oublié les exploits que Dieu a fait dans la Bible, et c'est ça qui nous enlève la joie. Mais la joie, nous allons la maintenir si nous avons constamment en face de nous les promesses à venir. On lit Hébreux 12. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Jésus-Christ a accepté de souffrir. Pourquoi ? À cause de la joie à venir. Quelle était la joie à venir ? Ben, c'était de savoir qu'il allait nous sauver. C'était de savoir qu'il allait nous sauver. C'était de savoir qu'il allait nous sauver. Donc, c'est-à-dire qu'il a accepté l'épreuve en son temps parce qu'il voyait les choses à venir. Il voyait la gloire à venir, donc en échange de la joie qui était réservée, de voir qu'il allait nous sauver. Donc nous aussi, nous pouvons tenir des événements d'aujourd'hui si notre regard est fixé sur ce qui a été accompli et sur ce qui nous est promis. Donc, que nous ne vivons pas uniquement en regardant à nous-mêmes, en étant submergés par des épreuves, finalement, qui étouffent la foi. Le chrétien vit par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses du Seigneur. Non pas simplement les promesses qui répondent aux problèmes d'aujourd'hui, mais aux promesses aussi par rapport aux choses à venir. Et la plus belle des choses à venir, bien entendu, c'est l'avènement du Seigneur. C'est l'avènement du Seigneur, le retour du Seigneur, de savoir qu'un jour, nous serons éternellement avec lui. C'est ça qui doit être notre consolation aujourd'hui. On doit se consoler par ça. Lorsque l'épreuve semble durer, lorsque les problèmes de la terre ne font que s'amplifier, que ça emmène une forme d'insécurité, eh bien, c'est de savoir qu'un jour tout ça, ça va finir. C'est ça notre consolation. Parce que si nous voulons nous consoler par rapport à la terre, on va compter quoi ? Sur le policier ? Le policier va venir, mais tu n'es pas garanti qu'il ressortira lui-même vivant. Il va faire ce qu'il peut. Tu vas compter sur quoi ? Sur le pompier. D'accord ? Le pompier fera ce qu'il peut. Mais tu n'es pas aussi sûr du résultat. Tu vas compter sur quoi ? Sur l'État. Ça fait des années et des années que les gouvernements changent. Il y a toujours des SDF, il y a toujours de la violence, il y a toujours de l'injustice. Donc on voit clairement que la justice du monde et tout ce qui se passe, la façon dont le monde est géré, ne va jamais, jamais, jamais résoudre le problème de l'humanité. Ça ne va jamais résoudre le problème. Entre la cupidité, la méchanceté, on exploite là-bas, on tue là-bas pour prendre ceci, on escroque ici pour prendre cela. Et ça ne finit pas, parce que le cœur de l'homme est mauvais. Ça veut dire qu'on peut changer de président, on peut changer de gens qui sont les garants de la loi, de la justice. Tant que le cœur n'est pas transformé, le monde ira à sa perte. Alors c'est vrai que devant toutes ces réalités, il y a des moments donnés, on peut même avoir envie de baisser les bras. Comme c'est écrit dans Matthieu 24, à cause de l'iniquité, l'accroissement de l'iniquité, l'amour d'un grand homme va se refroidir. Donc c'est vrai que le monde tel qu'on le voit et tel que les choses se dessinent, c'est décourageant de se dire qu'il n'y a pas de solution pour ce monde-là. Il n'y a pas de solution, le monde ne sera jamais le paradis. Et certains peuvent se décourager, certains peuvent baisser les bras et adopter quelquefois des positions contraires à l'évangile, entrer dans une forme de rébellion vis-à-vis de Dieu. Parce que la souffrance que le monde subit peut aussi s'imposer sur les chrétiens. Il y a des chrétiens qui souffrent aussi, qui souffrent de la famine, qui souffrent de la malédiction du pays. Et devant toutes ces choses-là, certains peuvent nourrir des sentiments de rébellion vis-à-vis de Dieu. Et le Seigneur dit quoi dans Matthieu 24 ? Il dit qu'il va abréger ces jours-là. Il va abréger ces jours-là à cause des élus. Donc le Seigneur a conscience qu'à un moment donné, on va être fatigué. On va être découragé. C'est là que le Seigneur va abréger parce qu'il sent que les chrétiens sont en train de perdre force. Mais comment vivre avec cette réalité-là ? Mais c'est uniquement en nous souvenant des promesses du Seigneur. C'est uniquement en nous souvenant des promesses du Seigneur que nous allons conserver notre joie, conserver notre identité dans le Seigneur. En se souvenant que le Seigneur revient, dans tous les cas, ça finira un jour. C'est le Seigneur qui viendra tout finir. Il viendra tout finir. Mais nous, avec les moyens humains bien-aimés, ne nous trompons pas. Donc le travail que nous avons à faire ne va jamais résoudre le problème de la terre, mais c'est de sauver un maximum d'âmes. C'est de sauver un maximum d'âmes. Voilà, donc on ne va pas changer la politique, on ne va pas changer la politique des pays, les dictateurs, mais au moins on va sauver beaucoup d'âmes, ce qui est de loin le plus important. Nous prenons Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, et c'est cette promesse-là que le Seigneur fait aussi à ses disciples. Jean 16, nous lisons à partir du verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit ? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit ? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus, sachant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Vous êtes triste parce que j'ai dit que je m'en vais, mais je reviendrai. Et cette tristesse qui est la vôtre aujourd'hui, un jour, je vais l'échanger, je vous donnerai une véritable joie. Vous allez vous réjouir. Et cette joie-là, plus personne ne pourra nous la ravir. Donc, nous sommes dans la joie parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Mais cette joie est combattue à cause des événements de la vie. Cette joie est contestée par le diable, qui va créer toutes sortes d'événements pour nous enlever cette joie, la joie du Seigneur. Donc cette joie que nous vivons, c'est comme des prémices. Elle n'est pas encore, on l'expérimente pas de façon totale. Mais le Seigneur dit que viendra un jour où la joie totale, la joie parfaite, nous allons l'expérimenter et plus personne ne pourra nous la ravir. Donc lorsque nous sommes en joie, que nous nous surprenons nous-mêmes quelquefois de se dire, tiens, l'épreuve est passée. À une certaine époque, je me serais rebellé, j'aurais pleuré. Et on est des fois étonné de ne même pas avoir senti à quel moment on a eu la force de surmonter telle chose et telle épreuve. Il y a des moments donnés dans certaines situations où on se trouve étonné de voir que mais je ne souffre même pas. On se pose même la question, mais je ne souffre pas par rapport... Donc c'est comme quelque chose qui est extraordinaire. Mais cette joie n'est que, je dirais, comme un échantillon en quelque sorte. Parce que la joie à venir... Celle que nous vivons éternellement, elle viendra un jour. Donc devant toutes ces promesses-là, faisons le choix d'expérimenter et de vivre chaque jour la joie du Seigneur. Que rien ne vienne nous troubler et nous enlever cette joie. Elle est en nous, acceptant que la chair meure, acceptant que la chair soit perdante. La diaconesse Ginette veut intervenir devant. Acceptant que la chair soit combattue, mais nous demeurons dans l'assurance de toutes ces promesses à venir, où on sait que les choses finiront un jour.
J'étais en train d'écouter un documentaire sur l'histoire des martyrs chrétiens, tout ça. Et dans l'ancien temps, ben, peut-être encore aujourd'hui, mais ils avaient une attitude de... Ils se sentaient honorés de souffrir le martyr pour Jésus. Et quand j'entends ça, je dis, aïe, c'est impressionnant. C'est impressionnant parce que, bon, je sais pas si moi, je pourrais me sentir comme ça, sachant qu'il y aurait comme... les lions qui m'attendent, là, ou quelque chose comme ça. Tu comprends? Ils avaient la joie d'être prêts à être martyrisés, tout ça.
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est aussi des exemples pour nous. Après, je pense que l'humain peut se poser, c'est vrai, énormément de questions, se disant, est-ce que ce qu'ils ont vécu, est-ce que moi, leur place... J'aurais accepté les choses de cette manière-là. Quand les apôtres ont été frappés, et la Bible dit qu'ils étaient dans la joie d'avoir été frappés à cause du nom de Jésus, est-ce que si ça nous arrive, on le supportera? Le Seigneur dit qu'on n'a pas à se poser des questions. Lorsqu'on nous conduira devant les tribunaux, lui-même remplira à la minute ce qu'on doit dire. Donc je crois qu'au moment où on sera exposé à des événements où, humainement parlant, nous connaissons nous-mêmes, on sait qu'en temps normal, on n'acceptera pas. Le Seigneur pourvoira. Voilà, le Seigneur pourvoira. Donc, chaque jour suffit à sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Donc, le Seigneur donnera. Le Seigneur donnera. Pour nous, on doit simplement veiller sur notre attachement avec le Seigneur. Voilà, c'est une force surnaturelle pour vivre de telles choses comme ça. C'est vraiment par la grâce de Dieu. Quand on reçoit le Seigneur, la Bible dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Donc on reçoit la vie de Dieu en nous. Mais au moment où on reçoit la vie de Dieu, nous n'avons pas atteint la maturité selon le Seigneur. C'est pourquoi il a établi les apôtres, les docteurs pour nous perfectionner. Voilà, donc le Seigneur sait à quel moment il peut permettre telle ou telle épreuve. Les épreuves qu'il permet devant nous, eh bien, il les permet en fonction de notre maturité spirituelle. Le Seigneur ne va pas permettre une épreuve qui va nous amener à la mort ou bien à le renier. S'il permet quelque chose, c'est qu'il estime qu'au-dedans de toi, il a déposé ce qu'il fallait, il a fait le travail durant le temps qu'il fallait pour t'amener à être capable de supporter telle épreuve. Voilà, c'est ça. Comme un parent fait grandir son enfant et lui confie des responsabilités, ben, en fonction de l'éducation aussi qu'il lui a donnée. On ne va pas donner à un enfant une responsabilité uniquement pour justifier de le punir après parce qu'on sait qu'il va échouer. Non, Dieu est un papa qui est bon. Et il nous fait grandir, et en fonction de la croissance, il sait qu'avec tel, il peut permettre telle épreuve, avec telle épreuve, parce qu'il a fait le travail qu'il fallait pour nous amener au niveau où il fallait pour telle ou telle chose. C'est tout? Voilà, donc on bénit le Seigneur. La joie n'est pas quelque chose qui doit être lié à la terre, mais dépend uniquement de notre relation avec Dieu. Notre joie doit dépendre uniquement par rapport aux réalités célestes, les promesses à venir, voilà, qui nous montrent que le Seigneur a déjà tout réglé. Donc devant, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, eh bien, souvenons-nous que la Bible a déjà répondu à ça. Voilà, que ça soit notre consolation, afin que les événements de la vie ne nous maintiennent pas la tête sous l'eau, ne nous maintiennent pas dans la tristesse, mais que cette joie s'exprime et que elle permet de nous maintenir dans une bonne relation avec le Seigneur. Nous allons prier afin que le Seigneur nous aide à manifester cette joie, à laisser cette joie s'exprimer en nous, qui nous aide à apprendre à laisser notre chair être crucifiée, même si quelquefois ça peut être difficile quand le Seigneur nous demande de nous rabaisser, de nous humilier alors que nous avons raison, mais il le fait pour un objectif. Donc n'oublions pas ça, que ce que le Seigneur permet, il le permet parce qu'il a un projet sur mesure pour chacun d'entre nous. Il ne laisse rien au hasard. Éternel Dieu, nous voulons te bénir, Seigneur Dieu de gloire, parce que nous réalisons encore au travers de ce que tu as déposé en nous, que tu nous as vraiment armés, Seigneur Dieu de gloire, pour faire face à toutes les réalités de la terre. Mais Seigneur de gloire, nous humilions parce que nous reconnaissons que quelquefois notre chair est encore bien vivante, Seigneur, et empêche, Seigneur Dieu de gloire, ta nature d'être manifestée en nous et étouffe la joie, Seigneur de gloire, par le Saint-Esprit. Seigneur, nous venons nous humilier devant toi encore afin de crier à toi, Seigneur, toi qui es le Dieu de grâce, fais-nous grâce, Seigneur Dieu de gloire, de vivre véritablement, Seigneur de gloire, cette joie de laisser, Seigneur de gloire, ton Esprit Saint vivre en nous, Seigneur de gloire, glorifier ton nom à travers tout ce que nous allons faire, à travers tout ce que nous allons dire, à travers tout ce que nous allons subir, Seigneur. Nous voulons toujours élever ton nom dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à demeurer, Seigneur de gloire, dans la joie selon toi, Seigneur. Regarde au-dedans de nous, éternel Dieu. Regarde dans notre chair, Seigneur de gloire, ce qui n'est pas encore mort, Seigneur. Regarde dans notre chair, Seigneur, ce qui résiste, Seigneur Dieu de gloire. Et délivre-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Délivre-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à te faire confiance, Seigneur, à méditer, Seigneur, à nous rappeler constamment de ce que tu as accompli autrefois, à nous rappeler constamment, Seigneur de gloire, des promesses qui sont aussi pour nous, Seigneur, afin que nous trouvions notre consolation dans les temps difficiles, ô Dieu. Que la joie, Seigneur de gloire, que tu as mise en nous, Seigneur, ne soit pas étouffée, Seigneur, mais que par les promesses à venir, Seigneur Dieu de gloire, nous demeurions, oui, Seigneur, dans la joie. Seigneur, merci pour toutes tes promesses, Seigneur. Merci parce que nous savons que tu as dit, Seigneur de gloire, que tu ne vas pas nous délaisser, que tu ne vas pas nous abandonner, que nous ne serons pas orphelins. Seigneur, toutes ces promesses nous rappellent, Seigneur Dieu de gloire, que dans les situations difficiles, en réalité, nous n'allons jamais être seuls, car tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Rappelle-nous cela, Seigneur Dieu de gloire, dans les moments de solitude, lorsque nous avons le sentiment, Seigneur, que les hommes nous ont abandonnés, Seigneur, mais de nous souvenir que toi, tu es là, Seigneur, afin d'être dans la consolation, de demeurer dans la joie, Seigneur. Seigneur, devant les réalités, Seigneur Dieu de gloire, que nous pouvons entendre, que nous pouvons voir, Seigneur, nous prions, Seigneur Dieu de gloire, chaque jour pour le salut des humains. Mais chaque jour, Seigneur de gloire, nous constatons, Seigneur Dieu de gloire, qu'il y a encore eu des tueries, Seigneur. Il y a encore eu des meurtres, Seigneur. Devant toutes ces réalités, Seigneur Dieu de gloire, il peut nous arriver de nous décourager. Seigneur, mais nous voulons nous souvenir que tu reviens bientôt, Seigneur. Que le temps de souffrance cessera. Qu'il y a un jour, Seigneur Dieu de gloire, comme tu l'as dit, il n'y aura plus de deuil, Seigneur. Il n'y aura plus de deuil. Seigneur, nous attendons, Seigneur Dieu de gloire, cet événement, ce jour-là, avec empressement, Seigneur Dieu de gloire. Mais durant le temps de ton arrivée, Seigneur, déverse en nous, Seigneur de gloire, le zèle pour travailler, Seigneur de gloire, au salut de l'humanité, dans le nom de Jésus. Sans toi, Seigneur de gloire, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons être dans la joie, demeurer joyeux, Seigneur. Sois béni, éternel Dieu de gloire. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta vie que tu as déposée en nous, Seigneur. Que la gloire te soit rendue à toi seul, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.